genèveactive.ch.
Dernier thé à Baden-Baden, les monologues d'un agent double. Andréa Novikov, comment l'auteur de plateau que vous êtes a rencontré l'univers en 2D de Plonk et Replonk dans une atmosphère un peu rétro-futuriste?
J'aime bien leur travail, donc il faut juste essayer de s'ouvrir à ce travail et après essayer de le conduire, si on y arrive, avec douceur, vers quelque chose qui est plus théâtral. Et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire être plus théâtral aujourd'hui? C'est difficile. Je crois que quand même, il faut prendre le spectateur quelque part dans son côté fragile, lui montrer quelles sont les péripéties, les obstacles, les douleurs, les fractures, les espoirs de quelqu'un et l'accompagner vers une résolution. Donc la base classique de toutes les histoires. Évidemment, ça c'est complexe avec un matériel comme celui de Plonk et Replonk qui est un matériel qui se refuse à ça. Eux-mêmes, je pense, ils se refusent à ça. Eux, ils aiment bien juste des petites illuminations, une petite dérision, une fracture, un petit coulant sinon sur la réalité, une petite brèche, une fracture. Donc eux travaillent sur la fracture, la brèche, la falaise et une histoire au théâtre, peut-être ils travaillent sur la longueur, donc un extraordinaire défi.
Comment êtes-vous passé de cette petite surface, lue peut-être en 4 à 8 secondes, à un autre type de temporalité, en imaginant peut-être avec Plonk et Replonk un scénario qui peut rappeler par certains côtés celui de Forrest Gump, c'est-à-dire la traversée d'un siècle, avec un retour assez fréquent à un asile?
Ça s'est passé un petit peu, un travail assez collectif. D'un côté, les Plonk proposaient des images, des histoires, des bouts de texte. On était tous assis autour d'une table, le comédien était là, Loïc qui s'occupait des images, d'animer les images des Plonk était là, moi, et ça brassait des idées. On sortait, on revenait, on repartait, on essayait. Plus tard, on a refait la même chose sur le plateau. On a essayé, vu que des histoires ne tenaient pas la route, des autres oui, des autres moins. Et c'est pour ça aussi que l'espace final est aussi une sorte d'atelier. Au centre, plus ou moins centré, on a un écran qui est au fond la carte postale, le résultat des péripéties mentales des auteurs. Autour, on voit tous les auteurs. Et on a un comédien qui actue dans une salle bleue, dans une boîte bleue. On a l'informaticien, on a des bruiteuses. Et on peut soupçonner les auteurs, le Plonk et Replonk, le metteur en scène, tout ça. Et tout le monde actue en fonction de cette chose qui se condense en ce moment dans un rectangle, que dans notre cas est un écran, et chez les Plonk et Replonk est une carte postale.
Vous avez toujours été fasciné, intéressé dans vos explorations par le théâtre en train de se faire, la fabrique théâtrale révélée à vue. Qu'est-ce qu'il en est ici par rapport à ce que vous aviez proposé, notamment pour le Grand Cahier, ou sur ça, effectivement, où il y avait des inscriptions sur des surfaces multiples, des hors-champs qui étaient révélés? Comment la chose s'est faite, notamment avec un très grand aspect qu'on connaît très bien, notamment dans le cinéma burlesque, qui est un aspect son?
C'est difficile pour moi de parler de ça parce que je crois que pour le moment ça m'appartient tout simplement, ça appartient à ma démarche. Je soupçonne que dans notre cas, dans le cas de ce spectacle, le fait d'avoir l'informaticien à vue, ça raconte que tout ça est faux, tout ça est construit, tout ça n'est pas vrai. Et avoir les bruiteuses à vue, que des bruiteuses c'est normalement un métier quand ça se passe dans des salles noires, à la radio, à la télé, au cinéma, après que tout le tournage a été fait, et c'est des petites combines pour produire des bons sons, etc. Tandis qu'ici, elles sont à vue, ça continue à raconter que tout ça, que le plateau ou que l'art du plateau, l'art de la boîte noire qui s'anime est un art de l'illusion, de la fantaisie, de l'imagination, et ce n'est pas le lieu de la reproduction du réel, si réel existe, si c'est possible, si jamais, de le reproduire.
Vous aviez la possibilité, bien que la technologie soit assez sophistiquée par certaines dimensions, mais de la pousser un peu plus loin, vous avez gardé un côté artisanal là aussi. Je ne vais pas citer trop de noms, mais on peut penser à de Méliès, à Jean-Christophe Averty, en passant par d'autres expériences de ce type.
C'est fondamental dans une époque dans laquelle Avatar est sur nos écrans et il nous fait des choses extraordinaires. Et j'ai encore un refus, ça je trouve extraordinaire. Le théâtre doit simplement dire non, ça veut dire qu'il va dans un autre territoire. C'est dans le territoire dans lequel moi je te lance une piste et toi spectateur tu continues la piste, et que toi et moi spectateur on travaille ensemble, et que je suis pas là pour t'épater, mais je suis là pour jouer avec toi afin que tous les deux on construise une histoire. Si ça pour moi, et ça j'y crois fondamentalement, ça c'est encore le lieu, la boîte noire et la salle noire où on est tous là en train de construire des images, mais ensemble, pas avoir des images construites par quelqu'un. Et si ça c'est vrai, alors toutes les fois que pendant les répétitions on avait des images magnifiques et on pouvait pouvait parce qu'on avait de l'informatique à haut niveau. Et on les a tout de suite refusés en disant non, oui, c'est trop bon. Maintenant, on revient en arrière, on reprend le moment où on les a inventés. Et je pourrais dire que ça, c'était un désir de toute l'équipe dans la salle. Je pense que c'est le même désir de Plon qui travaille avec, en jouant avec un système, un moyen de communication d'antan qui vraiment ne joue pas avec le temps contemporain. La carte postale vieillit, c'est bien. C'est exprès. Il peut faire des choses autrement et totalement contemporain et moderne. C'est exprès. Non, ce temps d'aujourd'hui, on dialogue avec, mais on ne s'adapte pas.
La carte postale, justement, je sais que vous connaissez bien Martin Parr, ce photographe anglais qui a beaucoup collectionné de cartes postales, qui a fait d'ailleurs beaucoup de rétrospectives, notamment dans les rencontres photo d'Arles, avec des cartes postales du tournant du 19e et 20e. C'était l'iPhone de l'époque, j'entends, je veux dire, les gens avaient des nouvelles par les cartes postales. C'était un journal qui était beaucoup plus vite édité que le reste. Il en reste aussi quelque chose par rapport à ce fait de composer une image en direct, d'une certaine manière, cet aspect collage-montage qu'on retrouve aussi dans d'autres de vos spectacles.
Oui, j'adore Martin Parr, ça a été un des photographes qui était présent sur nos tables pendant le travail. Oui, alors après, on ne sait jamais où on vole, où on prend, avec qui on dialogue quand on crée un spectacle. Sûrement, avec Martin Parr, on a dialogué.
Il y a un côté dans Nature morte avec Hoft, Pascal Rebettet, qui traitait du tératologique, de la monstruosité, de l'hybridation, qui se retrouve quelque part ici, dans ce scénario, avec ce clonage d'une certaine manière et ce thème du double.
Le thème du double, ça veut dire moi et mon frère, moi et moi-même. On le retrouve dans les quatre jumelles de copies que j'ai montées. Je le retrouve dans un grand cahier où il y a deux jumeaux. Je le retrouve dans la nuit des rois de Shakespeare que j'ai monté. Donc quelque part, je dois avoir un problème avec moi-même, bien sûr, ou un jumeau que je ne connais pas. En tout cas, il doit sûrement y avoir un problème là-dedans, un problème. On pourrait dire aussi une richesse. Je dirais même, il y a eu d'une façon drôle entre nous, on a dit que le spectacle de Dernier Thé à Baden-Baden est un hommage à une grande écrivaine suisse ou qui réside en Suisse, qui est Agota Christophe. C'est le grand cahier en version Plonk et Plonk. Il s'agit de deux frères, de jumeaux, qui poursuivent des séries d'aventures pendant les guerres du siècle, et qu'en ce moment, un reste dans un pays, l'autre va dans l'autre pays. Donc si on pourrait dire que c'est un hommage à un artiste résident dans le canton de Neuchâtel.
Genèveactive.ch